voudrais remercier Geneviève ainsi que tous les organisateurs de cette journée d'études. Je suis tout à fait ravie. Je suis ravie d'être là. Alors, comme l'a dit Geneviève, moi je suis doctorante en droit et je travaille dans le domaine de l'innovation ouverte en droit de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou c'est trop bas encore. C'est bon au fond de la salle? Non, pas du tout. Bon, bah désolé. Alors, je suis doctorante en droit et je travaille sur l'innovation ouverte en droit de la propriété intellectuelle. Donc j'ai eu l'occasion dans le passé de travailler un peu dans le secteur muséal, je suis diplômée en muséologie, et donc du coup je me suis dit que ça serait intéressant de voir quels sont les enjeux juridiques de ce type d'innovation dans le domaine culturel. Alors les musées, ils s'inscrivent dans une tendance générale d'ouverture, qui concerne aussi bien les institutions publiques, à travers l'ouverture des données au public, que surtout le secteur privé, parce que les entreprises ont de plus en plus tendance à ouvrir leur cycle de recherche et développement à des partenariats externes. Et donc ce sont des partenariats de plus en plus intensifs, de plus en plus diversifiés avec des acteurs différents. Donc du coup, tout cela a forcément quelques répercussions au droit. Donc cet schéma organisationnel duquel on a parlé aujourd'hui et duquel on va parler, il y a aussi une certaine organisation qui doit se mettre en place dans le domaine juridique. Alors, moi, je vous propose d'étudier ce sujet à travers trois thématiques principales. Donc, premièrement, c'est une tentative de définition de l'innovation ouverte. Je dis tentative parce que je pense qu'il y a beaucoup de définitions très différentes et tous les acteurs ont leur propre définition. Moi, ici, j'essaierai juste de retracer un peu les origines du concept et de voir, du coup, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut entendre comme innovation ouverte. Et ensuite, bon, ce concept, de quelle manière il est appréhendé par le droit, donc quelles sont ses spécificités juridiques, pour enfin finir avec quelques, disons, bonnes pratiques, mais c'est plus des propositions pour traiter ce genre de propriété intellectuelle sur les actifs immatériels générés. Alors, donc, premièrement, pour la question de la définition d'innovation ouverte, il s'agit d'un concept qui nous vient du management de l'innovation. Il a été théorisé dans les années 2000 par Henri Chesbrough. Et lui, il met en place, il oppose un modèle traditionnel d'innovation, dit modèle fermé, dans lequel l'entreprise est en train d'innover. Donc, en fait, toute l'innovation se fait au sein de l'entreprise, qui est en train de la protéger par des droits de propriété intellectuelle et qui est en train de la valoriser par la suite dans ses propres produits et services. Et à ce modèle-là s'oppose un autre modèle, qui est le modèle ouvert, donc celui de l'innovation ouverte, qui passe par des partenariats et qui est donc du coup organisé autour de deux mouvements. Donc le mouvement premièrement d'externalisation, c'est le mouvement inside out. Donc c'est la structure va mettre à disposition, par exemple, ces données, comme pour le cas de la BNF, on met à disposition nos bases de données ou nos savoir-faire, ou dans le cas des entreprises, ça peut être des licences, des technologies particulières. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement, c'est le mouvement outside in, par lequel on va récupérer des technologies, des licences, du savoir-faire de l'extérieur à travers des partenariats et on va l'intégrer dans notre propre cycle de recherche et développement pour avoir, dans le cas des entreprises, des produits, des mises sur le marché, etc.
Pardon.
Oui ? Vous souhaitez que je vous mette. Bah, le problème, c'est que quand je lance la. Oui, désolé, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien.
Sinon, on va à gauche.
Je ne suis pas de. Ah oui, d'accord. Parfait. Mais le problème, c'est que, en fait, moi, je le vois en grand, mais si ça reste comme ça, je ne sais pas pourquoi.
On va
désolé. Bah, si vous voulez, là, on a tout simplement. Le texte n'est pas très important, c'est un peu ce que je dis. Alors, disons, là, c'est le schéma du modèle fermé, de l'innovation au sein de l'entreprise. Et ensuite, on a ici une protection par des droits de propriété intellectuelle, une protection contre la concurrence, etc. Le modèle classique. Et là, c'est le modèle ouvert, où on a à la fois donc, des intervenants, des partenariats avec des universités, avec la communauté des internautes, qui vont interagir avec l'entreprise, ils vont créer une innovation et ensuite elle va être externalisée, bah, soit protégée par la propriété intellectuelle, soit distribuée par des licences libres. En fait, tous les modèles peuvent coexister. Et donc, quel est l'avantage de ce modèle? Pourquoi on a décidé de faire ça? Tout simplement, les entreprises se sont rendues compte qu'ils n'ont pas toutes les compétences possibles et imaginables. Donc, en fait, ils recherchent tout simplement des technologies et des connaissances complémentaires. Et cela permet d'avoir une recherche plus performante, plus rapide et moins coûteuse. Donc, on est d'accord que les musées ne sont quand même pas des entreprises comme les autres. Et ça ne marche pas maintenant.
Désolée.
Donc, je dois sortir du diaporama.
Non, ça va.
Ah, ça a marché ?
Oui, oui.
Bon, bah, désolée. Alors, du coup, ce modèle-là, il doit être adapté au monde muséal. Et cela a été fait notamment par un chercheur qui s'appelle Aïta Meïd, donc qui retient la notion, encore une fois, managériale d'entreprise sociale. Alors, l'entreprise sociale, c'est une entreprise qui a un objectif social ou culturel, comme un musée, mais qui, en même temps, peut adopter des stratégies de marché pour aboutir à cet objectif. Donc, pour prendre un exemple, c'est par exemple un musée, donc il a l'objectif de valorisation du patrimoine, de démocratisation de ses collections, mais cela n'est pas du tout exclusif d'une recherche de profit, de bénéfices pour pouvoir s'autofinancer, surtout dans un monde où on appelle de plus en plus les musées, on les incite de plus en plus à être autonomes financièrement. Et donc, suivant Aïta Meïd, donc il invente un modèle, le Museum Innovation Model, qui est structuré autour de trois piliers. Donc il prend le modèle managérial de l'entreprise sociale. Il considère que cette entreprise doit adopter une stratégie d'innovation particulière, qui est l'innovation verte, donc à travers des partenariats, pour aboutir à son objectif, qui est l'objectif d'innovation sociale. Donc, par exemple, c'est un musée qui va collaborer avec une école pour mettre en place une application pédagogique. Il le fait donc de manière ouverte. Il le fait dans un objectif social pour acquérir un certain nombre de publics particuliers, mais en même temps, ce n'est pas du tout exclusif d'une commercialisation de cette application, par exemple. Donc c'est en fait un peu un cadre idéal d'innovation suivant Aïta Meïd. Alors moi, si je vous dis tout ça, moi je ne suis pas du tout spécialisée en économie et gestion, mais c'est juste pour dire que juridiquement, en fonction de l'objectif que va se poser l'institution, on va gérer différemment le partenariat. Donc, cette structure organisationnelle va avoir une répercussion juridique qu'on va voir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'est l'innovation ouverte ? Je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples tout à fait excellents aujourd'hui. Mais en fait, c'est une multitude de pratiques, bon, je ne dirais pas à l'infini, mais finalement, pourquoi pas. Donc, on a énormément de partenaires qui peuvent être en fait le public, les visiteurs pour le musée, qui peuvent être les internautes, mais qui peuvent être également des entreprises privées, des établissements publics, il peut s'agir de l'État également, des start-up, voilà, c'est vraiment à l'infini, il existe énormément de cadres différents. Après, comment on peut la faire à travers de médiums très différents? Donc, ça peut être un partenariat classique entre deux structures, mais ça peut être les réseaux sociaux, ou pourquoi pas la blockchain, et je pense que Primavera va justement vous en parler. Et enfin, on va aboutir à un certain nombre d'actifs immatériels également très importants, aussi bien protégés par de la propriété intellectuelle. Ah non, mais ça, voilà, je n'en étais plus jamais. Non, en fait, ça, ben moi je le voyais, je croyais qu'il était... Oui, ben, en fait, je dois sortir du diaporama complètement, je crois que c'est le seul... Voilà, c'était juste en fait pour se rendre compte de la diversité des pratiques.
Thank you.
sinon sans visuel, Sophia? Non.
Ben, on va pas faire pratique en fait.
C'est là aussi.
Oui. Après, sinon, on parlera. Cette collaboration qui sont de nature très différente, à la fois des actifs immatériels protégés par de la propriété intellectuelle, comme le droit d'auteur, comme des brevets, des dessins et modèles, ou autres types de titres de propriété intellectuelle. Et d'un autre côté, on peut avoir des actifs qui ne sont pas protégés, ce sont des idées, ce sont des découvertes, ce sont des le savoir-faire, qui ne sont pas protégeables, mais par contre, ils ont une réelle valeur. Alors, pour voir quelles sont les spécificités juridiques de ce type d'innovation ouverte et des actifs immatériels qui sont générés, moi je considère, premièrement, pour essayer de vous expliquer la définition que je mets de l'innovation ouverte, il n'est pas exactement la même que vous allez en avoir, et elle est peut-être beaucoup plus restreinte que celle qui est faite par Chesbrough. Alors, comme il s'agit de pratiques extrêmement diverses, il n'est pas possible d'avoir un régime juridique unique pour toutes. Donc moi, je me suis attachée à ce que je considère comme étant le cœur de ces pratiques, c'est-à-dire les partenariats, la collaboration. Donc pour moi, à chaque fois qu'il y a la création d'un contenu entre un musée et des partenaires externes, on aura de l'innovation ouverte, que moi je décide d'appeler du coup innovation collaborative. Et j'exclus alors tout autre échange qui sont très très pertinentes mais qui ne vont pas donner naissance à des actifs immatériels. Donc c'est juste pour les besoins de l'étude en quelque sorte, pour la restreindre un peu. Alors le droit de la propriété intellectuelle est juste une brique parmi d'autres qui vont s'appliquer à l'innovation ouverte, parce qu'on aura des problématiques de droit des contrats, de droit international privé, parce que l'innovation est transfrontalière. On va avoir des problématiques de données personnelles qui sont très intéressantes pour la mise en disposition justement des bases de données au public. Voilà, c'est infini. Après, ici, on aura juste la propriété intellectuelle et généralement, il y a de quoi parler déjà rien qu'avec ce domaine-là. Alors, pourquoi parler de propriété intellectuelle dans le cadre de l'innovation ouverte? On pourrait se dire que si c'est ouvert, alors pourquoi ne pas décider que ça soit libre pour tout le monde et c'est fini. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que ça devrait être comme ça. Après, à mon avis, l'ouverture de l'innovation n'est pas du tout en contradiction avec le principe d'appropriation et les titres de propriété intellectuelle. Et ça, on le voit beaucoup dans le domaine des entreprises, des sociétés. Ils fonctionnent au contraire sur une propriété intellectuelle extrêmement forte et bien protégée. Et donc c'est généralement aussi très bien contractualisé. Aussi, même si on ne veut rien savoir de la propriété intellectuelle, on ne peut pas vraiment y échapper parce que c'est un régime qui s'applique automatiquement, en tout cas pour ce qui concerne le droit d'auteur en France, qu'on le veuille ou pas, elle va s'appliquer. Donc je me dis, autant l'utiliser en tant qu'outil au service de la volonté des partenaires et des ayants droit. Alors, pour l'innovation ouverte, donc déjà, ici, vraiment très très brièvement, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est que la propriété intellectuelle, ce sont un peu les grands principes de la propriété intellectuelle. Elle se divise, pour schématiser, en deux grands blocs. C'est la propriété littéraire artistique, donc généralement surtout le droit d'auteur, qui protège les œuvres de l'esprit, donc la forme originale des œuvres. Ça ne concerne pas uniquement les beaux-arts, mais notamment les programmes d'ordinateur. Je pense que les musées sont justement les institutions culturelles concernées. Donc ici, il s'agit d'une protection automatique sans aucune formalité par la seule création. elle est constituée par deux types de droits. Donc le droit patrimonial, qui est l'exploitation, pas commerciale, mais en tout cas c'est la valorisation économique de la propriété intellectuelle, qui est limitée dans le temps, à 70 ans après la mort de l'auteur. Et d'un autre côté, on a le droit moral, qui est constitué par un droit au nom, un droit à l'intégrité de l'œuvre et d'autres, et qui, lui, est perpétuel et qui n'est pas transférable. Il sera éternellement, en quelque sorte, rattaché à l'œuvre. D'un autre côté, on a la propriété industrielle. Moi, je pense que ça nous concerne un peu moins, peut-être, aujourd'hui. Mais, en fait, ce sont les marques, les brevets, les dessins et modèles. Après, ce n'est pas du tout exclu qu'un musée puisse mettre en place une invention brevetable, par exemple, pour la restauration des œuvres d'art. C'est tout à fait possible. La question de la marque muséale est toute une autre question, je ne vous en ai pas rentré dedans. Alors, je voudrais juste rappeler, mais vous le savez, qu'il y a des actifs immatériels non protégeables. Donc, encore une fois, les idées, les découvertes, les informations historiques. On a les œuvres dans le domaine public, qui eux ne sont plus protégeables, en tout cas par un droit patrimonial. Et donc du coup, il faut également faire une distinction entre support matériel et propriété intellectuelle immatérielle. Donc l'exemple par excellence, c'est un tableau. Donc on peut vendre le support matériel du tableau. C'est pas pour autant qu'on a donné une autorisation de reproduction et de représentation. Donc il s'agit de droits qui sont vraiment distincts et qu'il faut envisager du coup dans leur complexité. D'ailleurs, la propriété intellectuelle, sa complexité, c'est justement qu'elle est immatérielle, et donc en fait, elle peut être cédée plusieurs fois. Et voilà. Mais donc, du coup, une des caractéristiques des actifs immatériels, donc, pour moi, il y a deux principales caractéristiques des actifs immatériels générés par l'innovation ouverte. Le premier, c'est l'hétérogénéité des actifs immatériels générés, et le deuxième, c'est l'hétérogénéité des contributeurs. Alors là, j'ai essayé juste de prendre un exemple pour essayer d'expliquer qu'est-ce que je voudrais dire par hétérogénéité des actifs immatériels. Donc imaginons la mise en place d'une application pour des jeux de piste dans les musées. Cette application est développée, en tout cas l'idée de cette application a émergé lors d'un hackathon. Donc il y a le lauréat dont on a choisi de développer l'idée. Ensuite, cette idée, elle a été développée en collaboration entre le musée et une entreprise privée. Ensuite, on a l'interface graphique qui a été créée grâce à du mécénat de compétences. Ensuite, on aura les textes de l'application qui sont, eux, écrits par les conservateurs du musée. On aura des images appartenant à la RMN. Et à la fin, on a voulu mettre en ligne l'application et permettre à tout et chacun d'en modifier les fonctionnalités et donc du contribuer par du crowdsourcing. Alors, quel est ici l'enjeu juridique principal? C'est qu'on a une multitude de contributions. On a une œuvre complexe. Ça a l'air d'être juste une application, donc quelque chose d'un ensemble, quelque chose de global, mais en réalité, on a une multitude d'œuvres différentes, chacun à son auteur, donc son propre des droits, et à son propre régime juridique. Et il faut qu'on fait de l'innovation ouverte de tout cet ensemble. Il y a un autre enjeu, c'est celui de la qualification de l'ensemble. Donc, en droit d'auteur, il y a trois qualifications possibles des œuvres à plusieurs auteurs. C'est l'œuvre de collaboration, l'œuvre collective et l'œuvre composite. Donc, c'est un peu compliqué de les décrire toutes aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que même rien que pour qualifier l'ensemble, on a trois possibilités qui dépendent des modalités en fait, de la création, tout simplement. Et en fonction de cette qualification-là, on va avoir un régime juridique différent, une durée de protection probablement différente, et un transfert des droits différent. Donc, et c'est pas tout, en fait, il y a pire. Là, c'est l'hétérogénéité des contributeurs. Donc, quand on fait un partenariat, on se dit, bon, il n'y a que le musée, et par exemple, l'entreprise privée, et c'est fini. Ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, on a à la fois des intervenants internes à l'institution et des intervenants externes. Mais parmi les intervenants internes à l'institution, on a déjà des groupes de personnes différentes. On a les salariés, on a des fonctionnaires, on a des stagiaires. Donc, il faut se dire qu'en fonction d'un côté, le type d'intervenant, de l'actif immatériel en question, et de la qualification globale de l'œuvre, on va avoir un transfert de droit qui est différent. Et juste pour prendre un exemple, on ne va pas transférer les droits sur un logiciel créé par un salarié d'une entreprise de la même manière que les droits sur un texte ou une image. Dans notre exemple à nous, en fait, le logiciel le transfère là, sous certaines conditions automatiques. Donc, du seul fait du contrat de travail qui a une mission de création de logiciel, de programme informatique, du seul fait de ce contrat, le transfert au musée, par exemple, va se faire automatiquement. Par contre, le salarié du musée, lui, quand il écrit un texte, les droits d'auteur ne sont pas transmis automatiquement. En fait, il faut faire un contrat de cession des droits. Bon, c'est un peu compliqué, donc en réalité ça fonctionne de manière plus fluide, mais si on se tient vraiment au texte, c'est comme ça. Il faut à chaque fois qu'il y a une création de quelque chose de nouveau, signer un contrat de cession des droits. Et il faut se dire que quand on a un salarié qui crée un logiciel et un stagiaire à côté, les droits du salarié sont transmis automatiquement par les droits du stagiaire. Donc il faut signer un contrat de cession des droits avec le stagiaire. Alors, comment on peut faire pour, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour régler tout ça, mais en tout cas, il y a quelques, disons, bonnes pratiques qui peuvent être retenues, c'est pas réellement des conseils, c'est juste des pistes de réflexion peut-être. Alors, quant à la protection des actifs immatériels générés par l'innovation verte, d'après moi, il n'y a pas de solution unique. En fait, ça dépend tout simplement de la stratégie des partenaires. On peut décider de s'approprier les produits, on peut décider de les distribuer librement, on peut décider d'avoir une copropriété. Chaque projet, au cas par cas, doit être étudié indépendamment. Ce qui est important, c'est d'adapter la stratégie juridique à cette volonté des parties, tout au cours du projet. On a en fait différents stades, de tout projet d'innovation, à différents stades. On a la phase pré-contractuelle où on se met en relation avec les partenaires avant de commencer de collaborer. Ensuite, on a la phase de la collaboration elle-même. Et à la fin, on a une étape de gestion des résultats de cette collaboration. Donc, à ces trois étapes correspondent certaines actions à faire, ou en tout cas, il faut réfléchir sur certains points. Donc, en amont de la collaboration, il faut choisir les partenaires appropriés. Donc, ça peut être des partenaires privés ou des partenaires provenant du secteur public, mais il faut avoir une certaine compatibilité déjà des cultures et objectifs des partenaires. Parce que si l'un s'intéresse uniquement à la commercialisation et l'autre, il veut la disposition libre au public, ça risque tôt ou tard d'avoir un conflit. Donc, il faut choisir à la fois les partenaires et l'échelle de la collaboration. Là, ici, c'est plus une question peut-être managériale, c'est de se dire, est-ce qu'on peut gérer ce type d'innovation? Est-ce que si on met, je pense qu'on a parlé justement des hackathons, si on met en place un hackathon, est-ce qu'on peut gérer le processus du début à la fin, ou on préfère plutôt faire un partenariat plus classique parce qu'on sait comment faire et c'est plus sécurisant pour nous? Et donc, en fait, il faut également évoquer la question du partage des droits au tout début. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est le plus marrant, et il y a des conversations beaucoup plus plaisantes que de se dire comment on se partage les droits, mais il faut que quand même les parties aient en tête déjà qui veut récupérer les droits et pour quelle exploitation. Ça évite les conflits plus tard. Ce n'est pas très facile parce que parfois il y a une difficulté en fait, de savoir qu'est-ce qui va être créé à la fin. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on partage, et puis au début on se dit on ne veut pas commercialiser, mais à la fin on a quelque chose de génial, et on se dit mais en fait on veut le commercialiser, donc ce n'est pas forcément très facile. Donc il faut, une des solutions peut-être, c'est de penser aux intermédiaires de l'innovation collaborative. Je pense qu'on a très brièvement évoqué avant ce sujet. Donc en fait il y a des entités, ils peuvent être privés, ils peuvent être publics ou associatives, permettre aux partenaires déjà de choisir, de trouver le partenaire adapté en fonction du projet en question, mais ensuite qui permettent d'accompagner les parties tout au long du processus. C'est parfois peut-être inutile, mais parfois dans des projets complexes, qui, dans une longue durée de temps, ça peut être très, 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 très utile. Ensuite, on passe à la phase suivante, c'est la collaboration. Donc, c'est le moment où on commence à rédiger le contrat. Alors, il faut penser à un certain nombre de clauses qui se retrouvent un peu dans tous les contrats, mais qu'il faut bien sûr adapter à chaque cas. Je trouve pas que c'est une bonne idée d'utiliser des contrats préétablis et qu'on passe à chaque fois avec le même contrat. Ça a l'air facile, mais en fait, ça peut être très problématique si le contrat n'est pas adapté en réalité. Donc, il faut penser aux actifs immatériels non protégeables. Donc, s'il s'agit de choses qui sont un peu sensibles, donc des informations, je ne sais pas, c'est vrai que c'est plus valable pour le secteur des entreprises, pour les technologies, mais on ne sait jamais. Donc, il faut conclure un accord de confidentialité, même avant de commencer de parler. En fait, il faut, dès qu'on expose quelque chose de sensible et que c'est uniquement une idée, il faut se dire que ce n'est pas du tout protégé et il faut conclure un accord de confidentialité, sinon après, ce n'est absolument pas possible d'agir. Ensuite, même s'il n'y a pas des choses sensibles, s'il y a juste des idées, par exemple un musée qui va apporter des actifs non protégeables comme, je ne sais pas, une base de données avec des œuvres dans le domaine public ou bien une idée de développement d'un outil, d'une application, mais c'est juste une idée, il faut... Le fait que ce n'est pas protégeable par le droit de la propriété intellectuelle ne veut pas dire que ce n'est pas protégeable par le droit des contrats. Donc il faut tout simplement prévoir dans le contrat comment on va protéger ces choses-là, comment on va protéger le savoir-faire et comment on va l'exploiter éventuellement après. D'autres clauses auxquelles il faut penser, c'est ce qu'on appelle, un peu dans ce milieu, le background. En fait, c'est la propriété intellectuelle préexistante des parties qui est utilisée dans le projet, mais qui ne fait pas partie du contrat, qui ne va pas être distribuée. Il faut penser à écrire qu'on se la réserve, en fait, qu'elle nous laisse, qu'elle reste à nous. Et également, ça je pense que dans le secteur culturel ça va être plutôt rare, mais pourquoi pas des clauses de non-concurrence. C'est le cas où un musée, disons, développe un outil exceptionnel et qui repose sur une idée très originale, et donc il ne souhaite pas que le même prestataire développe un outil similaire dans une autre institution. Donc pourquoi pas inclure une clause de non-concurrence pour ce dispositif-là. Et enfin, il faut aussi se dire que l'innovation collaborative, en fait, elle suppose une flexibilité, une adaptabilité. Qu'il faut être. Parce que les juristes, notre problème, c'est qu'on a tendance à avoir un contrat, un cadre, et on veut à tout prix rester dedans. Peut-être dans ce cas, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être justement, il faut penser aux méthodes agiles qui étaient évoquées tout à l'heure, et avoir une possibilité peut-être de renégociation ou. De certaines choses qui peuvent être importantes. Et enfin, donc c'est le partage des résultats de la collaboration. Ben là, on peut partir dans des voies différentes. La première, c'est celle de la centralisation des droits par l'institution. Donc c'est tout simplement l'appropriation exclusive. Dans quel cas on va vouloir faire ça? C'est si on veut monétiser l'actif immatériel. Si on veut, par exemple, je ne sais pas, le mettre à disposition du public, mais de manière payante. Si on souhaite garder le contrôle, donc on ne veut pas forcément faire payer, mais on veut par contre être le maître de tout ce qui est contenu dans cette application. Ou empêcher l'usage des tiers. La propriété intellectuelle nous donne quand même des droits qui nous permettent de nous opposer à toute utilisation par un concurrent. Le moyen juridique de tout ça, c'est l'acquisition des droits de la part des partenaires. En fait, c'est l'acquisition des droits, dans le schéma compliqué tout à l'heure, de tous les intervenants. Et surtout des partenaires, il ne faut pas rester en copropriété. Donc la copropriété entre partenaires, c'est aussi envisageable, c'est dans le cas où par exemple les parties vont avoir à égalité les droits sur l'application, pour reprendre l'exemple. Alors il faut juste faire attention, la copropriété c'est la dépendance. Les parties restent dépendantes quant à leur choix pour l'avenir en fait de l'actif immatériel généré. Donc dans ce cas il faut vraiment faire attention. Comment on rédige les termes en fait de cette copropriété. Donc qui va avoir quel droit, pour quel usage, dans quel contexte, etc. Et ensuite, il y a une autre solution, c'est celle de la décentralisation. Donc on a une distribution sous licence libre. Donc l'institution décide de laisser tout et chacun, de par exemple modifier le dispositif, de s'en servir, de l'améliorer. Bah, dans ce cas, il faut juste choisir la bonne licence libre, celle qui est la plus appropriée aux objectifs de l'institution. Donc, ça dépend si on veut garder, par exemple, un certain contrôle sur l'actif matériel et primaire. Elle vous en dira, beaucoup plus sur cette question des différentes licences livres. Je vais finir juste avec deux exemples de ce que je viens vous dire pour vous montrer à quel point en fait, on peut avoir un blocage possible suite à une mauvaise gestion de la propriété intellectuelle. Là, c'est, on a la même implication que tout à l'heure. Et imaginons que ici, le musée souhaitait avoir la propriété exclusive sur l'application pour, par exemple, je sais pas, la commercialiser. Bah, en fait, on avait le code source qui était développé en collaboration entre le musée et une société privée. Ce code source, en fait, je pense que vous savez comment ça marche, mais en fait, on a des briques de code qui sont réutilisées et ces briques ont des régimes juridiques différents. Et on a des briques qui sont sous licence copyleft. Ça veut dire qu'ils ont une licence qui, par exemple, interdit toute appropriation. Bah, ce genre de licences sont, on peut dire, sans que ça soit péjoratif, elles sont contaminantes. Dans le sens où dès qu'on les intègre dans un corpus plus large, la licence juridique va contaminer l'ensemble et tout va être soumis sous une licence copyleft. Donc, aucune appropriation possible. Donc, si le musée a fait ça, donc ça veut dire juste une brique de code de source quelque part que personne n'a vu passer, en fait, ça empêche l'appropriation de l'application tout entière. Une autre situation, là, c'est le musée qui veut distribuer sous licence libre l'application. Là, tout va bien, côté de code source, mais là, on avait l'interface graphique qui était développée grâce à du mécénat de compétences. Bah, imaginons qu'ici, il n'y a pas eu la cession des droits. Par exemple, dans le contrat, c'était écrit « On vous autorise d'utiliser le graphisme qui a été réalisé, mais uniquement pour votre usage, sans aucune modification possible. » Et donc, ça suffit pour bloquer tout. On ne peut plus, distribuer sous licence libre quelque chose dont on n'a pas les droits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, je ne sais pas, peut-être faire une autre interface graphique. Mais c'est compliqué. Donc, quels sont les pour moi, s'il y a peut-être une chose à faire en général, c'est de penser aux droits. C'est pas très marrant. On n'a pas vraiment toujours envie, mais de ne pas penser uniquement au début du projet en rédigeant un contrat, en le mettant quelque part, en l'oubliant, ou à la fin du projet, où c'est trop tard, et en fait, on se rend compte qu'on n'était pas d'accord sur plein de questions. À mon avis, il faut intégrer la réflexion du droit à chaque étape, au début du projet, mais aussi au cours du projet et à la fin du projet, et ça veut dire aussi, malheureusement, il faut intégrer les juristes dans les projets. J'ai remarqué en tout cas, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai remarqué que dans les institutions, souvent les juristes ont leur département et en fait ils savent pas trop ce qui se passe. Et un jour il y a un projet qui arrive chez eux et ils commencent à dire oh, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et en fait tout le monde est fâché à la fin parce que les opérationnels sur le terrain ils comprennent pas comment ça marche pas et ça fait depuis des mois qu'ils négocient. Et le juriste ils comprennent pas comment on a pu signer les droits sur des choses dont on n'a pas les droits. Et donc en fait ça c'est dommage, je me dis que si les juristes participaient depuis le début, s'ils comprenaient vraiment le projet qui leur était soumis, ils pourraient élaborer un régime juridique adapté. Et enfin, il faut garder la trace de tout ça, parce que ça semble évident, et à chaque fois qu'on est dans un projet, ça nous semble évident comment se passent les choses, et ensuite dans 5 ans, en fait personne ne se souvient plus rien. Et personne ne sait où sont les contrats, ou même si on a les contrats, on ne sait pas qui avait fait exactement quoi, quel salarié, et voilà. Et en fait, on commence à se souvenir si un jour, malheureusement, bon, c'est très rare, mais en fait, ça fait travailler les avocats. Ça arrive chez les avocats et ils disent oh, écoutez, on a une application, on fait quelque chose, mais on ne sait plus qui a fait quoi, etc. On vous donne tout et ils donnent une pile de documents. Et il y a 3 avocats qui passent une journée à essayer de comprendre comment a été créé le dispositif. C'est dommage. Pour tout le monde. Donc en fait, c'est la question de la preuve, et là justement, je laisse la parole à Primavera pour dire comment on peut faire pour garder la preuve du processus d'innovation collaborative.